Moment documentaire. Les mardis après-midi. Bon après-midi, vous êtes sur Jet FM et vous êtes sur le point d'écouter 6m50, une série en 7 épisodes de Domiti de Vevey, sur la traversée de l'Atlantique en voilier et la course mini-transat. Aujourd'hui, l'épisode 2, Esprit Mini, es-tu là ? N'hésitez pas à aller retrouver les épisodes précédents en ligne ou sur le site de Jet FM.
Dans l'épisode précédent, on découvrait Bruno, 35 ans, ingénieur de formation, qui plaque tout pour un rêve un peu fou, traverser l'Atlantique à bord d'un voilier minuscule de 6,50 m.
C'est une baleine énorme qui est juste à côté de nous. Merde.
Pendant 2 ans, il va tout donner pour participer à la Mini Transat, une course au large connue pour être l'antichambre du Vendée Globe.
Elle vient vraiment nous voir. C'est moitié flippant d'ailleurs, comment elle est grosse.
Printemps 2022, après avoir acheté Callisto, un bateau taillé pour la course, Bruno enchaîne sa qualif, la Solomed.
Est-ce que vous entendez le souffle ?
Et la Mini Fastnet.
Elle navigue lentement, ouais. Viens me voir, Germaine.
Si vous débarquez ici, je vous conseille de reprendre au début. 6m50 s'écoute dans l'ordre. Ici, chaque mille nautique compte. Bruno, lui, est en pleine sas.
Elle est en train de nous doubler parce qu'il n'y a pas de vent.
Et qui dit pétole, dit pétage de câble.
On est raccus là en fait. Les prévisions elles sont merdiques. Les conditions elles sont merdiques. C'est un peu décourageant. Puis voilà quoi, on a mis 11 jours à l'aller, là on va mettre pareil. Enfin, moi j'étais pas préparé à passer 22 jours en mer tout seul là. J'avais ni la préparation mentale, ni la préparation technique, c'est-à-dire la dose de podcast qu'il faut avoir. Ça peut être solide, hein. Heureusement qu'il y a des baleines.
Mètres 50.
Un mini, c'est un bateau de 6m50 qui est destiné pour faire de la course au large en solitaire.
Un documentaire de Domitil de Vevey.
On est à 200, un peu plus de 200 000 de l'arrivée, du coup normalement demain on arrive. Allez !
Bruno, le genre de Pokémon qu'on aime croiser. J'ai eu son bateau sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, je me suis dit lui, j'ai envie qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que son bateau est tout simplement incroyable. C'est le seul qui a osé, qui a vraiment fait un truc genre délire de A à Z. Bruno, on se revoit en Guadeloupe et j'espère que tu seras ben, genre premier quoi.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Top !
Épisode 2. Esprit Mini, es-tu là ? Domitil, c'est moi. Je fais de la radio depuis 2010 et connais Bruno depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Ce documentaire, c'est le résultat croisé de sa détermination à aller jusqu'au bout de lui-même et de ma curiosité sans fond pour un milieu que je ne connaissais qu'à peine. Après la SAS, Bruno est épuisé. De retour à terre, il réalise ce qu'il vient de vivre.
Ah, bah vous imaginez pas comme ça fait du bien d'être à terre, là. J'attendais ce moment avec une impatience contenue. J'ai dormi jusqu'à 15h, voilà. Ma course, c'était pas évident, franchement. C'était dur, quoi. J'ai fait un bon début de course, et puis après, la dorsale, je pense que j'ai vraiment fait un choix météo de merde. Et ensuite, tout s'est enchaîné un peu à l'envers pour moi. J'ai peut-être manqué aussi un peu de lucidité, mais après, le résultat est pas fou. Mais j'ai jamais eu d'objectif de résultat, donc franchement, je le prends très bien. Je suis tellement fier d'être allé aux Açores avec mon petit bateau et d'être revenu avec. C'est quand même une expérience incroyable et je pense que c'est rare dans une vie de pouvoir faire ça. Et du coup, je suis vraiment trop fier de ça. Et puis, c'était une course un peu dure parce que finalement, j'avais pas pris assez de bouffe. À la fin, j'en ai eu assez, mais j'étais quand même un peu en rationnement tout le long. Voilà. Après, je suis vraiment très fier de moi parce que de tous les autres Pogo 3M, je suis clairement le mec le plus rapide sur l'eau avec Damien, le mec qui gagne, et Franquise Thomas André là. Donc on est trois bateaux qui sortent un peu du lot en vitesse et en fait ça fait flipper les gens d'être à côté de moi quoi. Et ça c'est cool, c'est trop bien quoi.
Résister à la mer quand le vent tombe, ce n'est pas juste une affaire de mental, ça s'apprend. À Concarneau comme ailleurs, des centres d'entraînement accompagnent ceux qui rêvent de voir leur nom sur la liste des participants à la Mini Transat.
Des centres d'entraînement sur la façade atlantique, c'est La Rochelle, La Trinité, Lorient, Concarneau, Roscoff. Donc j'avais en gros le choix entre Lorient, Concarneau et Roscoff, ce qui est plus proche de chez moi. Et puis j'avais entendu dire que Concarneau, c'était un centre d'entraînement associatif, géré par les coureurs, et qu'il y avait une bonne ambiance et que l'entraîneur était super. Avant d'avoir le bateau, je me suis inscrit au centre d'entraînement, j'ai rencontré les gens et donc j'avais déjà rencontré un peu l'équipe, même avant d'avoir le bateau. Quoi.
Avec la professionnalisation de la Mini Transat, certains centres sont devenus de vraies petites entreprises. Mais à Concarneau, François Jambourg revendique un tout autre état d'esprit.
Nous, on n'a pas vocation à accueillir 100 bateaux, comme c'est le cas dans d'autres endroits. On est limité par la capacité d'accueil au port, déjà. Donc, on est limité à une grosse quinzaine de bateaux. Ce qui fait que petit groupe, tout le monde se connaît, a un fonctionnement qui est collégial. Chacun met la main à la pâte pour le fonctionnement de l'association. C'est un petit groupe familial.
François Jambourg a remporté la Mini Transat en 2019. Aujourd'hui, il court la solitaire du Figaro tout en continuant de coacher à Concarneau. Et pour lui, une chose est claire, ici, ce n'est pas une école de voile.
L'idée, c'est d'accueillir des gens qui ne se connaissent pas forcément très bien eux-mêmes ou qui ne connaissent pas très bien leur bateau, mais en l'espace de une, deux ou trois saisons, créer cette alchimie pour que le couple bateau-skipper soit opérationnel sur les courses. Avec une spécificité aussi, c'est que les projets en mini ont la particularité de ne pas tous être axés sur la performance. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont quand même aventures, où les gens veulent juste finir dans les temps, etc. Et c'est déjà un objectif au soi selon le niveau de départ. Quand les coureurs arrivent, je les appelle coureurs, c'est pas pour rien, on essaie de rentrer très rapidement dans de la technique à tirer le meilleur de son bateau, bien régler son gréement, bien régler ses voiles, bien barrer, bien conduire, et puis apprendre aussi à exploiter les variables du milieu, les oscillations de vent à droite à gauche, les effets de coach, les effets de courant, justement pour pouvoir un maximum de billes pour être performant en régate, et le groupe tire tout le monde vers le haut, quoi.
Quand l'ambiance est bonne, l'émulation dépasse la technique. Elle devient aussi amicale. Au pôle de Concarneau, on forme une équipe. Et parfois, il y a quelques histoires qui méritent d'être racontées.
On fait des entraînements le vendredi soir. Au large, on passe 24 heures en mer et on part. On est une équipe de 5 à 10 bateaux, 10 personnes. Alors que les copains et copines, ils sont au bar en train de faire la fête ou que c'est un peu l'effervescence du week-end. Nous, on part naviguer et je trouve cette expérience particulière et un décalage que j'aime bien, quoi. Ça me fait me sentir vivant.
Renaud se souvient bien de son arrivée de Calife, après sa boucle Concarneau-Irlande-Concarneau.
J'avais plus de réseau depuis bien longtemps. Et en fait, j'arrive dans la baie de Concarneau, puis là, je capte à la VHF des collègues de l'équipe. Mais il était tard, quoi, genre 3-4 heures du mat. Et en fait, ils étaient 5-6, ils avaient pris le Zodiac d'entraînement et ils sont venus me chercher dans l'entrée du port. Donc c'était trop chouette d'arriver à 4 heures du mat, je ne sais plus combien, 26 mars, à Concarneau et d'être accueilli par une équipe. Ça fait plaisir, après 7 jours de mer en solo, c'est cool.
Bruno progresse, il apprend, il encaisse. Mais à mesure qu'il avance, une autre question devient brûlante. Comment financer tout ça ? Emmanuel Versace travaille pour l'association de la classe mini. Il est organisateur des courses de 2023 et de 2025 et je le rencontre dans un espace ouvert et un peu bruyant. Je lui demande combien coûtent les frais d'inscription à la Mini Transat.
C'est une des courses les moins chères, en fait, en termes d'inscription. 3000 euros TTC pour faire une Transat. C'est la classe qui est désireuse de garder ce prix bas pour que ce soit quand même une course abordable. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut qu'il se qualifie. Donc, et ça, des qualifications, ça veut dire des courses. Et qui dit des courses, dit des frais. Parce qu'il faut convoyer le bateau, il faut habiter sur place, il faut voyager, il faut se nourrir. Après, il faut compter tout ce qui est réparation. C'est un sport mécanique, hein, donc on passe son temps à bricoler. Il faut coudre, il faut souder, il faut réparer, il faut acheter de nouvelles voiles. Tout ça, c'est des frais qui font gonfler le budget. Donc pour moi, c'est compliqué d'estimer un budget général ou en tout cas moyen de tout ça, mais ça reste quand même un sport mécanique où il faut engager beaucoup d'argent sur la durée. Ouais.
Il ne faut donc pas minimiser l'importance d'un sponsor. Mais Bruno fait un autre choix.
J'ai acheté le bateau sur fonds propres et puis je me suis assez vite rendu compte que je pouvais me débrouiller financièrement et techniquement pour gérer tout le projet. Et surtout quand je me projetais dans la recherche de partenaires, je savais pas trop vers où aller et je trouvais pas de projet cohérent avec des partenaires déjà à l'époque. Il y a un moment où j'ai décidé que mes partenaires, c'était mes partenaires techniques en fait. C'était des gens de mon réseau qui allaient m'aider. C'était cette forme-là de partenariat dont j'ai bénéficié. Et donc ça a permis d'alléger pas mal le budget du projet et de faire un projet hyper cohérent et compétitif. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vu le partenariat, quoi.
Bruno, c'est l'art de faire beaucoup avec peu. Réparer plutôt que remplacer, c'est presque un réflexe. Sa formation d'ingénieur lui donne les clés pour bricoler malin et ses années passées à retaper un vieux gréement avec ses frères l'ont blindé en matelotage et en gestion de projet. Charles, un de ses proches, peut en témoigner. En 2018, Bruno l'a aidé à monter son entreprise. Et pas qu'un peu.
Aerofa, c'est une microbrasserie artisanale à côté de Nantes qu'on a montée il y a 7-8 ans avec un pote, Arthur. On brassait depuis longtemps et puis à un moment on est passé du gap à on brasse dans notre garage à on veut monter une brasserie. Et là Bruno il est arrivé, il nous a soutenus dans le projet, c'était cool d'être à trois. Son profil et sa motivation à toute épreuve nous a vachement aidé à creuser tous les aspects techniques un peu du montage du projet. Pour lui c'était évident de nous aider, il s'est vraiment impliqué, on a passé des semaines ensemble à monter tout ça. Et donc nous quand il nous a parlé de la Mini, si on pouvait lui faire quoi que ce soit pour lui filer un coup de pouce là-dessus, évidemment qu'on l'a fait, ouais.
De l'amitié au sponsoring, la transition s'est faite comme une évidence.
Aerofab, c'est pas trop comment on en arrive là. Je pense que c'est un peu une blague de soirée. Je commence à parler du fait que j'ai envie de faire un truc vraiment particulier sur la déco du bateau. Et que je pense à Julia Louisa, qui est nantaise, et donc ils connaissent son travail. Et puis je dis, mais je pense qu'il faudrait que ce soit la brasserie qui paye la déco. Si j'allais la démarcher, il fallait que j'ai un budget, quoi. Et c'est parti de là, et en fait, ça a été un peu une blague. Et j'étais là, mais par contre, il n'y a pas de contrepartie, il n'y aura pas de logo de la brasserie ou quoi. Et donc, la négo, c'était juste que le bateau s'appelle aussi Aerofab.
La déco, ce sont des voiles peintes à la main.
J'ai demandé à une artiste nantaise qui est illustratrice et peintre, et qui s'appelle Julia Louisa, de travailler sur Callisto pour moi. En fait, je lui ai commandé une sorte de fresque sur le bateau. On a fait la coque avec un sticker en impression numérique, donc ça rend super bien. Là, les voiles, elles sont en peinture. Ça va être une très belle fresque, très graphique et avec beaucoup d'animaux incroyables.
Waouh!
Oui!
Waouh, les numéros, comment ils sont trop cool!
Ah oui, j'ai fait ça tout à l'heure. Oui, mais tu vois, j'ai fait ça tout à l'heure, quoi.
Des dieux, des divinités, des animaux, des chimères, tout un univers sorti de l'imagination de Julia.
Voilà. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que comme en peinture, en spray, je vois que le fluo, il est en train de se déteindre complètement.
C'est très coloré, je pense que ça va vraiment faire quelque chose sur le plan d'eau. Là, tous les bateaux qui sont colorés, c'est plutôt de la représentation marketing, de la pub. Là, je revendique vraiment un projet artistique avec Callisto, donc c'est ça qui va être cool.
Est-ce que vous pouvez me décrire cette voile? Ça, c'est le dieu du hasard. C'est un dessin que j'ai fait il y a super longtemps. Et que, voilà, comme on avait parlé de faire un peu des chimères et des petits dieux, des petits machins, j'ai un peu fait des chimères un peu plus contemporaines que moyenâgeuses. et c'est un peu des guerriers, mais un petit peu rigolo.
C'est un gros dino, quand même.
C'est un gros dino, mais on dirait un peu un dino non genré.
Un dino couillon.
Alors, un dino qu'on voit des rayons laser.
Ouais.
Il a combien de bras, ce dino?
Il en a 6. Il devait en avoir 4. Finalement, la voile était beaucoup trop grande, donc j'en ai rajouté 2. Donc, on dirait aussi une chenille, finalement.
Et il tient quoi dans tous ses bras, dans toutes ses mains?
Alors, il tient des petites épées là-haut, quand même, à l'attaque. Après, bah, une clope, un téléphone rose, pour quand même être en lien tout le temps. Une petite bouteille de bière et une glace.
Et elle s'appelle comment, ces voiles?
Le Solent.
Le Solent et la grande voile.
Bah après, le Solent, il peut avoir plein de noms.
Comment tu l'appelles?
Le phoque.
Ah oui, le phoque.
Le phoque.
J'aurais pu faire un phoque.
Callisto, c'est une coque turquoise, des chimères sur ses voiles et une allure punk qui tranche avec les autres bateaux. Emmanuel Versace.
Bruno Le Minier, moi je ne le connaissais pas. Il est arrivé avec ce bateau incroyable, une déco qui relève de l'œuvre d'art sur un design vraiment disruptif, vraiment très beau. Et je pense que d'avoir exprimé un choix aussi fort sur la décoration d'un bateau, ça prouve quand même qu'il a du caractère et qu'il n'a pas peur de montrer qui il est. Et ça, je pense que d'un point de vue juste décoration, ça se voit. Comme il navigue également, donc ça, tout ça est relié, je pense. Et donc, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est prêt, qui dénote un tout petit peu par rapport aux autres coureurs dans sa tenue, dans la manière dont il marche, dans la manière dont il prépare son bateau. Et je pense que voilà, c'est un beau marin.
En mettant son bateau au service d'une œuvre d'art, Bruno réalise bien plus qu'un simple happening artistique. D'ailleurs, quand l'Atlantique se mettra à couler sous sa quille et que Bruno arrivera au bout de l'aventure, au bout de lui-même, au bout de tout, il ne fera plus qu'un avec son voilier.
Callisto m'a bien accompagné dans ce projet. Je pense qu'on a fait une bonne paire, on a bien fusionné. C'est incroyable comme on peut fusionner avec un objet comme ça. Elle devient une personne avec tous ses petits dessins. Elle me caractérise. Et voilà, je suis hyper fier.
Dans le prochain épisode, les courses vont s'enchaîner pour Bruno et sa préparation à la Mini Transat s'intensifier. Mais le corps a des limites que l'esprit parfois refuse d'entendre. Et quand on n'écoute plus les signaux, c'est la panne sèche, voire pire. Découvrez comment Bruno apprend à gagner, puis à perdre, dans l'épisode 3. Is the limit. Écriture, réalisation, montage, Domitil de Vevey. Mixage et soutien inconditionnel, Fabien Bourlier. Musique, Chamaille. Photographie, Vincent Olivo. Création visuelle, Julia Ruiza. 6 mètres 50 est une histoire originale soutenue par la brasserie artisanale Aérofab. Ensemble, nous avons créé une bière dont l'étiquette reprend le visuel imaginé par Julia Luisa pour Callisto. Vous avez aimé ce podcast? Parlez-en autour de vous. Merci.
Parfait, elle est bonne celle-là.